Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Benoît XVI s'est éclipsé, il n'apparaîtra plus en public. Pontife romain émérite, il passera quelques semaines à Castel Gandolfo, loin de l'effervescence médiatique liée à sa démission et à la perspective d'un conclave, avant de se retirer dans la prière et la réflexion dans un ancien monastère situé dans l'enceinte du Vatican. C'est bien sûr à cette journée historique que sera consacrée cette émission. Ce jeudi 28 février à 20h, la démission historique de Benoît XVI a pris effet. Les gardes suisses montant la garde devant le porche de Castel Gandolfo ont levé le camp et les portes de la résidence pontificale se sont refermées. C'est ainsi que s'achève le pontificat du 264e successeur de Pierre, élu le 19 avril 2005, 7 ans, 10 mois et 9 jours. Dans plusieurs pays du monde, des messes d'action de grâce ont été célébrées. Les pasteurs ont invité leurs fidèles à vivre ces journées dans la prière et la confiance paisible. L'Église n'est pas en deuil, mais le siège apostolique est vacant, une situation nouvelle. Le gouvernail de la barque de Pierre va bientôt passer dans d'autres mains. Les catholiques devront s'habituer à avoir un pape émérite et un pape en exercice. Tandis qu'au sein même de l'Église et de l'opinion publique, sa décision a suscité des avis partagés. Certains saluant son courage et sa sagesse, d'autres redoutant une déstabilisation de la communauté ecclésiale, d'autres encore éprouvant une vive compassion pour un pape qui n'a pas eu la vie facile. Benoît XVI a assuré son successeur de sa déférence et de son obéissance inconditionnelle. La succession apostolique fait partie de l'histoire et elle se poursuivra. Benoît XVI a quitté le Vatican à 17h en hélicoptère après avoir salué les responsables de la secrétaire d'État et le cardinal doyen Angelo Sodano. La cloche du Capitole, siège de la mairie de Rome, a sonné à 3 reprises. À son arrivée à la résidence pontificale d'été, Benoît XVI a été accueilli par le cardinal Giuseppe Bertello, président du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. Et c'est du balcon central de la résidence qu'il a salué la foule venue l'acclamer. Pourtant habitué à accueillir les papes, la petite ville était en effervescence. Manuela Affigi était sur place.
La place était petite, trop petite pour accueillir les quelques 5, 6, 7 000 fidèles des habitants de Castel Gandolfo, mais aussi d'ailleurs des alentours de Rome, qui étaient venus spécialement aujourd'hui pour saluer le pape, une dernière fois leur pape Benoît XVI. Évidemment, ici, beaucoup d'émotions, une émotion palpable, mais plus apaisée, plus sereine. Les fidèles comprennent le geste du pape, ils le prennent comme étant un acte d'humilité, de courage, de foi, ils ne l'en aiment que davantage. Le pape est apparu au balcon du palais apostolique à 17h35. Des applaudissements nourris l'ont accueilli. Le pape est resté debout, les bras tendus vers les fidèles, le visage souriant. Les Benedetto ont fusé et le pape a improvisé quelques mots à l'adresse des fidèles. « Je suis toujours touchée par votre affection. Andiamo avanti, allons de l'avant pour le bien de l'Église. Bonne nuit. » Les portes du palais apostolique se sont refermées sur Benoît XVI, sont refermées sur ses 8 années de pontificat. Une nouvelle page dans l'histoire de l'Église peut s'ouvrir.
Et je vous propose d'écouter les dernières paroles publiques de Benoît XVI en tant que pape. Vous savez que cette journée pour moi est différente des jours précédents. Je ne suis plus le souverain pontife de l'Église catholique. Je suis simplement un pèlerin qui entame la dernière étape de son pèlerinage sur cette terre. Mais je voudrais encore, avec tout mon cœur, avec tout mon amour, avec ma prière, avec ma réflexion, avec toutes mes forces intérieures, travailler pour le bien commun et le bien de l'Église, de l'humanité. Dans la salle Clémentine, quelques heures avant d'abandonner sa charge, Benoît XVI avait pris congé des 144 cardinaux présents à Rome, encore abasourdis par sa décision. Les prélats chefs de dicaster, le substitut de la secrétaire d'État, le secrétaire pour les rapports avec les États et le maître des célébrations pontificales étaient également présents. Le compte-rendu de Thomas Chabol.
Un à un, les cardinaux ont défilé devant Benoît XVI. L'émotion était palpable dans la salle Clémentine. Certains étaient en pleurs, d'autres au bord des larmes. Alors une dernière fois, les cardinaux se sont agenouillés devant le pape et ont baisé son anneau avant qu'il ne soit incisé après sa démission. Benoît XVI, visiblement fatigué mais attentif à chacun, leur a aussi délivré un message commun. Il a d'abord juré révérence et obéissance inconditionnelle à son successeur. « Successeur qui se trouve parmi vous », a précisé le pape. Il les a aussi assurés assuré de sa prière durant le conclave. Je continuerai d'être proche de vous par la prière, surtout au cours des prochains jours, afin que vous soyez complètement docile à l'action de l'Esprit Saint pour l'élection du nouveau pape. Portant sur les épaules la fameuse Mosette, cette courte pèlerine rouge bordée de fourrure blanche, le pape a souhaité que les cardinaux soient un orchestre dont les diversités concourent à l'harmonie de la réalité plus élevée de l'Église. Il est aussi revenu sur un concept qui lui tient beaucoup à cœur, celui de la nature de l'Église. Il a rappelé que ce n'est pas une institution créée par des bureaucrates, mais une réalité vivante.
Non è un'istituzione escogitata e costruita a tavolino.
L'Église ne s'est pas construite de toutes pièces. Elle vit le long du temps en devenir et comme chaque être vivant, elle se transforme, mais reste toujours la même avec le Christ en son cœur. Au début de cette ultime rencontre, le cardinal Sodano a adressé quelques mots à Benoît XVI de la part de ses pairs. Le remerciant pour l'exemple donné en 8 ans de pontificat, le doyen du Collège Cardinalis a affirmé que les cardinaux ont essayé de l'accompagner avec un amour profond sur son chemin. Il a remercié Benoît XVI pour son témoignage d'abnégation dans le service apostolique, pour le bien de l'Église du Christ et de l'humanité tout entière.
Et le dernier tweet du pape Benoît XVI a été publié à 17h15. Merci pour votre amour et pour votre soutien. Puissiez-vous expérimenter toujours la joie de mettre le Christ au centre de votre vie. Ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, élu pape à l'âge de 78 ans, Benoît XVI a publié 3 encycliques, une trilogie sur Jésus de Nazareth, 16 motu proprio, 4 exhortations apostoliques et il a effectué 24 voyages à l'étranger. Retour sur ce pontificat avec Olivier Bonnel.
Intellectuel lucide et discret, victime dès le début de préjugés et de clichés, Benoît XVI a eu du mal à se faire au métier de pape sous les regards impitoyables du monde entier. Il n'a pas été épargné. Mais il est parvenu petit à petit à imposer son style. Il ne s'est jamais imposé par la force, mais par la vigueur de l'Évangile et l'amour de l'Église. Benoît XVI a lutté avec détermination contre le fléau des abus sexuels que la hiérarchie a parfois caché, prônant la transparence et la tolérance zéro. Transparence également en termes de gestion financière et contre les malversations au Vatican. Alors que les tensions restent fortes entre un christianisme et monde moderne, il a mis l'accent sur la dimension spirituelle de la raison et s'est insurgé contre le relativisme moral, ennemi de la joie. Le souci de l'unité et la recherche de la vérité auront été au cœur de son pontificat. Mais surtout, il aura touché bien des esprits par la force de son humilité. On se souviendra de ses visites au camp d'extermination d'Auschwitz, de ses rencontres avec des victimes de prêtres pédophiles, de ses voyages en Terre Sainte, au Royaume-Uni et à Cuba. De nombreuses crises ont empoisonné son pontificat, le discours de Ratisbonne, l'affaire de l'évêque négationniste Richard Williamson, le malentendu sur les préservatifs, sans oublier Vatilix, les vols de documents confidentiels. Benoît XVI a reconnu qu'il y avait eu des nuages dans le ciel pendant son pontificat. Avant de quitter sa charge, ces jours derniers, il a fustigé l'hypocrisie religieuse, les divisions du corps ecclésial et les coups portés à l'unité de l'Église.
C'est en 2008 que Benoît XVI s'est rendu en France. Ses rencontres avec le monde de la culture au Collège des Bernardins, avec le clergé français à Notre-Dame de Paris, avec les fidèles aux Invalides et avec les pèlerins à Lourdes resteront autant de moments riches en émotions et en symboles. Pour Mgr Bernard Potvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France, le lien entre Benoît XVI et l'Église de France est très fort, comme en témoignent les récentes visites à Limina du 20 septembre au 3 décembre 2012. On l'écoute.
Benoît XVI est quelqu'un qui impressionne par la simplicité de son accueil et l'acuité de ses réponses. Il a vraiment répondu à chaque évêque, il a reçu vraiment fraternellement chacun de ses frères évêques. Cela marque beaucoup l'Église en France d'avoir un climat d'encouragement. Je pense aussi par exemple au message qu'il a adressé à ceux qui étaient rassemblés en mars dernier pour célébrer les 50 ans de Vatican II à Lourdes. C'est un très très beau message vidéo qu'il avait fait, où il redisait vraiment de toutes ses forces qu'il envoyait les catholiques de France à la relecture de Vatican II, à la redécouverte de Vatican II. Ce sont, parmi beaucoup d'autres signes, les marques d'un attachement très grand du Saint-Père envers la culture française, envers l'Église en France. Et je peux dire que depuis quelques jours, je sens dans les communautés chrétiennes une grande gratitude.
Lorsque vous parlez de confiance de Benoît XVI en l'Église de France, est-ce que vous pensez aussi à tout cet encouragement explicite qu'il vous a montré pendant le débat sur la loi du mariage pour tous ?
Oui, bien sûr. Explicite. réussite et on ne peut plus fort sur le plan éthique, sur le plan spirituel, le mariage pour tous évidemment, et aussi la défense de la vie à travers toutes ses composantes. Prier pour la vie, œuvrer pour la vie. Nous allons dans quelques semaines aussi avoir le débat sur la fin de vie. Comment ne pas penser justement à tous ces encouragements qu'aura fait Benoît XVI sur cette défense de la vie qui est toujours, toujours dans un lien très fort entre la foi et la raison. Ça n'est pas je ne sais quel fondamentalisme. C'est vraiment toujours en liant la foi et la raison que le Saint-Père demande vraiment qu'on soit défenseur des valeurs d'Évangile. Et ça, je crois que nous aurons là une très grande dette envers ce pape de nous avoir vraiment toujours dit il faut la foi et la raison, il ne faut jamais l'une sans l'autre, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut argumenter une évangélisation qui soit crédible dans le monde.
Qu'est-ce que l'Église de France, qu'est-ce que vous attendez du futur pape?
Vous savez, le Saint-Esprit envoie toujours aux Églises la réponse qui vraiment procure pour la mission les moyens d'accomplir cette mission. Moi, j'ai confiance que l'Esprit Saint nous donnera le pasteur qui doit être le pasteur de 2013. Je dirais que parmi les qualités que l'on souhaite au futur pontife, c'est sans doute une sorte de grande capacité de transcender les clivages, d'être vraiment pasteur de communion, parce que le catholicisme est considérable sur la planète, il est très divers, il est réparti sur tous les continents. Nous savons que le centre de gravité du catholicisme est désormais dans l'hémisphère sud. Je prie le Saint-Esprit pour que le nouveau pape ait la force physique et spirituelle de vraiment provoquer une très grande communion dont les catholiques ont besoin pour eux-mêmes ensuite, étant unis, faire œuvre vraiment de témoignage à travers le monde. Qu'ils soient un afin que le monde croit, dit le Christ. Je pense que plus nous aurons cette force de communion, plus ce sera un témoignage. Et à cet égard, les Journées mondiales de Rio seront sans doute déjà un premier grand rendez-vous pour le nouveau pape.
Monseigneur Bernard Peutevin, porte-parole de la Conférence des évêques de France, interrogé par Manuela Affigi. Jusqu'à l'élection du nouveau pape, c'est le cardinal Camerlingue Tarcisio Bertone qui administrera les droits et les biens de l'Église, tandis que le collège des cardinaux gérera les affaires courantes tout en préparant le conclave. Pendant la période dite du siège vacant, tous les chefs de dicaster de la curie romaine cessent leurs fonctions. Ce vendredi, le doyen du sacré collège enverra une lettre à tous les cardinaux pour les convoquer aux congrégations générales qui se réuniront à partir de lundi. C'est au cours de ces congrégations que les cardinaux décideront la date du conclave. Avant de quitter ses fonctions, Benoît XVI a amendé la constitution apostolique pour autoriser le sacré collège à anticiper, s'il le juge opportun, la date de l'entrée en conclave, une fois constatée la présence de tous les cardinaux à Rome. Pour la première fois, un Chinois participera au conclave, le cardinal John Tong On, archevêque de Hong Kong. Et à Rome, l'effervescence ne retombe pas. La renonciation historique de Benoît XVI a suscité un très grand intérêt des médias. 3641 demandes d'accréditation de 61 pays ont été présentées à la salle de presse du Saint-Siège. Le reportage de Jean-Baptiste Cocagne.
L'ambiance et l'affluence place Saint-Pierre sont redevenues normales. Mais du côté des journalistes, c'est toujours l'effervescence. Mauricio Bustamante, reporter pour la télévision publique chilienne, enchaîne les directs devant la caméra.
Il y a une grande inquiétude parmi les journalistes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de questions que de réponses. Le fait qu'un pape n'ait pas renoncé depuis plus de 500 ans crée beaucoup de questions et d'inquiétudes dans la presse. Cet événement a le poids de l'histoire. Être témoin d'un événement historique, ça n'arrive pas tous les jours.
Pour répondre aux questions nombreuses des journalistes, le Vatican tient même une conférence de presse tous les jours à la mi-journée. Du côté des pèlerins, cette vacance du siège apostolique crée une attente, celle d'un nouveau pape.
On se prépare à recevoir quelque chose de nouveau. Une certaine inquiétude quant à la situation telle qu'elle est. Le départ du pape, je comprends, mais qui laisse une interrogation. On a l'impression qu'il y a encore des choses à venir et on ne sait pas trop vers quoi on va.
Un peu d'émotion, bien sûr, mais beaucoup d'espoir quand même. Je suis tout à fait confiant. Je pense qu'on a un clergé qui est très profond et je n'ai aucune inquiétude. On va avoir 15 jours sans pape. Sur 2000 ans d'histoire, ça n'a pas d'importance.
C'est un bon moment car c'est une période cruciale où l'Église reprend des forces pour les années à venir, voire pour plusieurs siècles. Je crois de toute façon que Dieu, que l'Esprit Saint guidera les cardinaux et soufflera sur l'Église pour qu'elle puisse continuer.
Et pourtant, cette affluence de fidèles venus du monde entier ne fait pas forcément le bonheur des commerçants. Gianluca gère un magasin d'articles religieux à 300 mètres seulement de la place Saint-Pierre.
On vend des cartes postales et des médailles à l'effigie de Benoît XVI. Mais mon magasin ne marche pas très bien en ce moment. Disons qu'on a vu une petite augmentation, peut-être 4 ou 5%, mais pas plus. On espérait vraiment beaucoup plus parce qu'il y avait tant de monde.
Des fidèles peut-être aussi touchés par la crise économique, ou tout simplement des pèlerins à l'image du pape qu'ils sont venus saluer une dernière fois, humble et dans la simplicité.
Benoît XVI laisse à son successeur une église catholique en difficulté, dans un monde en pleine mutation. De lourds défis l'attendent. Enjeux éthiques, contestations internes, persécution des chrétiens dans le monde. En Occident, l'église catholique n'a plus l'influence dont elle jouissait, alors que des lois, comme celle sur le mariage homosexuel, entrent frontalement en conflit avec son éthique. Certains catholiques romains sont même montrés du doigt, et ils n'ont pas d'autre perspective que le repli identitaire. La crise de la pédophilie lui a fait perdre un important crédit, en particulier dans les pays anglo-saxons et germaniques. En Amérique latine, l'explosion du pentecôtisme a fortement relativisé sa présence. Par ailleurs, les mutations idéologiques au sein de l'islam ont entraîné la multiplication des conflits où le christianisme est victime de la radicalisation des musulmans. Et puis, de l'avis même de certains cardinaux, une nouvelle définition de la fonction de la curie est nécessaire. Même si cela ne s'annonce pas facile, Benoît XVI n'y est pas parvenu d'ailleurs, il faudra remettre de l'ordre. Le prélat béninois Barthélémy Adoukounou, ancien élève de Benoît XVI et secrétaire du Conseil pontifical de la culture, reconnaît que le futur pape aura à s'opposer à plusieurs évolutions selon lui inquiétantes. La volonté de construire le monde en tout, comme si Dieu n'existait pas, de formater l'homme, ainsi que celle de casser la famille et de détruire la nature. On l'écoute.
Le prochain pape, il aura certainement à faire face au monde moderne avec tous les problèmes très difficiles qui sont posés, du rejet de Dieu et la volonté de construire le monde et en tout comme si Dieu n'existait pas. Et finalement, une certaine prétention à changer l'homme, à vouloir, oui, disons, formater l'homme. Parce que l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme moderne qui rejette Dieu, le postmoderne veut encore détruire l'image de Dieu dans l'homme et donc, au fond, il veut se formater. Et c'est là que le prochain pape, il aura à reprendre les problèmes et à ce niveau fondamental, on ne formate pas l'homme. L'homme reste reçu, l'homme reste un don. Et donc, il va rencontrer le problème de tout ce que nous sommes en train de vivre ces temps-ci, la volonté de casser la famille et de la violenter. C'est-à-dire qu'il faut détruire la nature. Aussi, le dialogue avec les autrement croyants, l'islam, le dialogue avec l'islam est important et est très, très important. Et les affrontements actuels avec tous les islamismes vont obliger le pape à chercher avec le monde islamique comment, ensemble, nous allons travailler à corriger les pathologies, à guérir des pathologies de la religion, puis à l'intérieur de l'Église, que nous-mêmes nous sachions, non pas seulement qu'est-ce que l'Église, mais qui est l'Église.
Et parmi les nombreux messages adressés ces jours-ci à Benoît XVI, il y en a un qui l'a beaucoup touché. Il s'agit d'une lettre envoyée par un groupe de catholiques chinois, membres du clergé et simples fidèles. C'est une lettre de remerciement pour les efforts déployés par Benoît XVI pour promouvoir le dialogue et pour son soutien sans faille à l'égard de l'Église catholique de Chine. « Votre sainteté a essayé d'alléger le poids de la croix que nous portons », écrivent-il. La liste des remerciements est longue pour ses messages et ses initiatives, pour ses appels et ses prières, pour son engagement universel en faveur de la dignité humaine, de la vérité, des valeurs de la foi et de la nouvelle évangélisation, pour son attitude libre et ouverte face au pouvoir et aux honneurs, pour sa réponse ferme et persévérante aux défis. Elle a conquis le respect de tous et ému le monde entier. Les signataires de la lettre demandent pardon au pape pour leurs fautes et leurs faiblesses, pour les conflits et les difficultés et pour les déceptions auxquelles Benoît XVI a toujours répondu avec compassion, sollicitude et amour paternel. Ils se disent certains d'être unis dans la prière et promettent un amour réciproque qui ne finira jamais. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Et n'hésitez pas à vous servir des applications de Radio Vatican en français pour tablettes et smartphones.